Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien de l'Europe Direct de Strasbourg. Alors aujourd'hui, nous enregistrons notre émission depuis les locaux du Centre d'information sur les institutions européennes au lieu d'Europe à Strasbourg. Pourquoi ce lieu, me direz-vous ? Parce que le Centre d'information a reçu en 2020 de la Commission européenne le label de Centre Europe Direct. 48 centres en France et plus de 400 dans les 27 pays de l'Union européenne ont reçu ce label pour la période 2021-2025. Ces centres, et donc celui de Strasbourg, contribuent à rapprocher l'Union européenne des citoyens, à promouvoir la participation de tous sur l'avenir de l'Union européenne. Et c'est ce que nous essayons de produire notamment avec cette émission de radio. Pour célébrer le renouvellement de ce label, nous avons le plaisir d'accueillir deux députées européennes de la région, Fabienne Keller et Anne Sander, qui nous ont fait l'honneur de leur présence pour symboliquement dévoiler à l'issue de cette émission la plaque Europe Direct à l'entrée de nos locaux. Mais nous avons également le plaisir de faire cette émission en public et d'accueillir des étudiants de l'IMS de Nantes, ainsi que quelques intervenants bénévoles de notre Club Europe qui réalisent des actions d'information pour l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à tous, nous vous proposerons au cours de l'émission, si vous le souhaitez, de poser quelques questions à nos invités. Alors, Madame Keller, Madame Sander, bonjour.
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 Madame Keller, après avoir été maire de Strasbourg, sénatrice, vous êtes députée européenne depuis 2019 et siégez au sein du groupe Renew Europe, le groupe libéral et centriste du Parlement européen. Vous êtes particulièrement engagée au sein de la Commission de la Justice et des Libertés Civiles, ainsi que de la Commission des Budgets. Vous travaillez, entre autres, sur les sujets de protection de l'État de droit en Europe et des droits de l'homme, ainsi que sur le sujet de la migration. Madame Sander, vous êtes députée européenne depuis 2014 et siégez au sein du groupe du PPE, le groupe de centre droit. Vous travaillez notamment au sein de la commission d'agriculture et de développement rural, mais aussi en matière d'emploi et sur les questions transfrontalières. Enfin, je pourrais ajouter que vous êtes également depuis quelque temps élue régionale du Grand Est. Alors, pour commencer cette émission, j'aimerais nous rappeler qu'il y a tout juste 3 ans, un attentat a été commis au marché de Noël de Strasbourg, faisant 5 victimes et 10 de blessés. 2 des victimes étaient des journalistes qui suivaient les activités du Parlement européen, Antonio Megalizzi, un Italien, et Bartosz Piotr Orent Niedlwiski, dit Bartek, pour les gens qui le connaissaient. Je vous propose d'écouter, en leur souvenir, le discours prononcé en ouverture de session par le président du Parlement européen, David Sassoli. Ce petit discours a été mis en musique par des collègues du service audiovisuel du Parlement européen.
Il presidente.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
Chers collègues, alors que nous démarrons notre séance plénière ici à Strasbourg, nos pensées vont aux victimes de l'attentat terroriste de l'11 décembre 2018 qui a frappé la ville en plein cœur. Nous nous souvenons que 5 personnes qui ont perdu la vie avec respect et tristesse, et notre solidarité va à toutes les autres victimes, aux familles, à la ville de Strasbourg et au peuple français. Plus que jamais, nous devons défendre les valeurs et les libertés qui constituent les fondements de notre société plurielle, diverse et inclusive. C'est sans doute notre plus sincère hommage. Je vous propose d'observer 1 minute de silence. Merci.
Quel regard portez-vous sur cet événement rétrospectivement et pensez-vous que l'Union européenne a pris depuis des bonnes décisions pour lutter contre le terrorisme ? Je pose la question un peu aux deux.
Alors, ça a été un choc immense. Les Strasbourgeois se souviennent que pendant plusieurs jours, en fait, la ville était comme figée, puisqu'on a mis plusieurs jours à retrouver l'auteur. Il y avait des craintes de réplique. Et puis la violence inouïe dans ce temps de Noël apaisé, où les gens simplement se promenaient, cette violence incroyable, aveugle, inouïe, avec des morts, avec des blessés aussi, très jeunes pour certains, ça a été un choc immense. Je voudrais remercier le président Sassoli de ce souvenir. Malheureusement, Strasbourg n'a pas été la seule. Il y a eu des attentats à Berlin, dans d'autres villes françaises, dans d'autres villes d'Europe. Et donc la mobilisation contre le terrorisme est un des sujets absolument majeurs pour l'Europe. Comment lutter contre tout ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux? Comment mieux protéger nos frontières? Comment mieux identifier tous ensemble les terroristes? C'est un objectif majeur sur lequel nous travaillons et sur lequel, hier encore, il y a eu des propositions de la Commission qui sont en lien avec les priorités de la présidence française. C'est le renforcement de la zone Schengen et le pilotage politique de cet espace de libre circulation dont nous profitons très bien, mais qui doit être parfaitement protégé.
Nous en parlons certainement en cours de l'émission. Madame Sander, vous aussi, je pense que ça vous a assez ému. Et quel souvenir, parce que je sais que le Parlement avait été aussi touché, puisqu'il avait été confiné pendant la période de l'attentat, pendant les moments de l'attentat.
Oui, tout à fait. Beaucoup d'émotions en commémorant cette soirée tragique. Vous dire aussi que effectivement, j'étais au Parlement. Nous étions barricadés au Parlement et finalement plutôt bien protégés par rapport au reste de la ville de Strasbourg. Mais évidemment, nous étions dans le doute, très inquiets, parce que beaucoup de nos collègues étaient présents dans la ville. Donc c'est vrai que c'était un moment très très fort et c'est un moment aussi qui nous a rapprochés au sein du Parlement. Et quand on évoque ce moment, c'est toujours avec beaucoup, beaucoup d'émotion, parce que nous nous sommes retrouvés et des liens très forts ont été tissés. Alors c'est vrai que ça a créé quand même une dynamique au niveau européen, parce que d'ailleurs les députés étaient là, donc même les plus réticents, parce qu'il faut dire aussi qu'il faut évidemment lutter ensemble contre le terrorisme, parce que toute l'Europe a été touchée. Mais une fois qu'on a dit ça, derrière il faut des actions concrètes. Et c'est vrai que une partie de notre hémicycle était toujours très réticente à avancer sur un certain type de mesures pour permettre plus de sécurité, notamment quand il s'agit d'échanger des informations sur des personnes qui sont parfois dans les radars des forces de l'ordre. Et donc peut-être que ça a permis au moins à un moment donné de débloquer certaines situations. Et puis je voulais rappeler qu'à ce moment-là aussi, ce qui était remarquable, c'était la coopération avec nos amis allemands. Parce que très vite, les frontières se sont fermées, mais elles ne se sont pas fermées pour se fermer. Elles se sont fermées de manière concertée et il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de collaboration entre les polices allemandes et françaises. Et je crois que derrière, ça a renforcé cette dynamique de collaboration entre nos forces de l'ordre. Puis dernier point, vous avez cité les journalistes qui ont péri, l'Italien en particulier, qui était plus connu. Mais je vais vous dire, en Europe, des journalistes continuent à mourir. Là, c'était, je dirais, il n'était pas au bon endroit. Mais en Europe, on a aussi des journalistes qui meurent parce qu'ils défendent certaines causes, parce qu'ils luttent contre la corruption. Et je pense en particulier à une journaliste maltaise. D'ailleurs, nous avons créé un prix au Parlement européen pour tous ces journalistes et pour toutes ces personnes qui s'engagent pour des valeurs essentielles.
En parlant des prix, au cours de la session plénière, le Parlement européen remet le prix Sakharov, le prix pour la liberté de l'esprit, à Alexei Navalny, cet homme politique russe d'opposition et militant anticorruption emprisonné en Russie. Pensez-vous que ce prix puisse aider à sa libération? Quel symbole le Parlement veut-il faire passer en remettant ce prix?
Alors il y a des débats sur le choix de celui, celle ou le groupe qui va recevoir chaque année le prix Sakharov. C'est un prix pour la liberté, c'est un prix pour signifier qu'une personne ou un groupe de personnes s'engage au péril, là aussi, de leur vie, pour une cause démocratique. Nous avions en fait deux finalistes qui étaient Alexei Navalny, donc opposant au régime de Poutine depuis plus de 10 ans, qui a été empoisonné il y a quelques années, qui a fait une grève de la faim, qui a failli lui coûter la vie puisqu'il est emprisonné. Mais ses amis, son épouse et sa fille, qui va recevoir le prix tout à l'heure, s'engagent pleinement à ses côtés. Alors il y avait un autre groupe qui pouvait recevoir ce prix et qui le méritait d'une certaine manière tout autant, c'est les femmes afghanes, avec l'idée de mettre la lumière sur leur situation. Nous qui avons la chance de vivre dans un pays démocratique où les jeunes filles peuvent être éduquées, où elles ont les mêmes libertés que les hommes, en tout cas par la loi, même s'il faut continuer à se battre pour qu'il y ait effectivement l'égalité. Donc le prix, ça sert aussi à donner de la visibilité à un combat qui nous semble très légitime, à protéger là où les personnes elles-mêmes, en étant désignées par le prix, cela rend plus difficile pour un pouvoir autoritaire comme le pouvoir russe la poursuite de la torture que subit Navalny, voire sa disparition, puisque ça arrive avec un certain nombre d'opposants dans le monde, et puis à faire connaître son engagement et sa cause. Je pense par exemple aux Ouïghours, quand on a donné le prix à Ilham Tohti, en fait à sa fille là aussi, parce que lui aussi est incarcéré, ça a mis en lumière le combat des Ouïghours, et depuis la connaissance de leur situation, la réalité des camps de travail et de redressement qui existent en Chine a été mise en lumière et a permis à cette cause très légitime d'être mieux portée. Donc c'est cela l'engagement du Parlement européen, parce que Anne Sander et moi-même, on a cette chance inouïe d'être dans un Parlement démocratique et qui a cette mission de défendre la liberté et les droits de l'homme, et nous pouvons le faire sereinement. Moi, je suis toujours très très fière quand on fait ce geste de soutien à l'égard de celles et ceux qui vivent dans des pays où ces libertés ne sont pas assurées.
Vous voulez ajouter un petit mot ou...
Bon, je partage ce qu'a dit Fabienne Keller, il n'y a pas de débat. Mais peut-être dire, oui, c'est vraiment donc c'est l'éclairage, ce qu'a dit Mme Keller, mais c'est aussi, je l'espère, un encouragement pour lui, parce que j'espère que cette information, il pourra en disposer, et puis évidemment un encouragement et peut-être aussi de l'espoir pour sa famille, pour ses proches et pour tous ceux qui continuent à être engagés pour la même cause.
Directement, c'est une petite pression aussi sur Vladimir Poutine.
Bien sûr. Là-dessus, je suis plus sceptique. Je ne suis pas sûre que Vladimir Poutine soit sensible à ce type de démarche.
Européen.
Mais en tout cas... C'est ce que nous voulons espérer.
Changeons de sujet. À partir du 1er janvier, et pour un semestre, la France va prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Madame Sander, ce sera la 13e fois que la France assurera cette présidence. La dernière, c'était en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Au vu de cette expérience, pourriez-vous nous dire en quoi consiste une présidence du Conseil? Et pour vous, quel est l'intérêt là? C'est plus une question un peu pour pédagogique, pour comprendre quel est le sens d'une présidence en général.
Une présidence, c'est toujours un moment très très fort pour le pays qui exerce cette présidence. Différentes choses se passent pendant cette présidence. D'abord, le pays qui a la présidence va devoir s'engager pour porter les priorités européennes. Alors, 6 mois, c'est court, et en 6 mois, on ne fait pas avancer toutes les priorités européennes. Mais néanmoins, on essaie... de faire avancer un certain nombre de sujets. Donc ça veut dire essayer de trouver des compromis entre les pays de l'Union européenne, mais aussi des compromis entre les institutions, entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil, pour faire avancer des dossiers, pour porter très fort des idées au sein de l'Union européenne, mais aussi face au reste du monde. Donc ça, je dirais, c'est l'action au niveau européen. Et puis, une présidence, c'est aussi un moment fort pour le pays qui exerce, parce que c'est le moment de porter ses priorités. Ce sont des choix politiques qui sont faits. La présidence slovène avait ses priorités, chaque pays a ses priorités. Et donc, ça veut dire, pour un pays, un engagement à 100% pendant 6 mois d'une équipe de fonctionnaires très compétents, techniciens de très haut niveau pour faire avancer l'ensemble de ces dossiers, mais ça veut dire aussi des ministres et un président de la République totalement engagée. Moi, j'ai eu la chance de vivre les négociations sur la politique agricole commune. Donc, ça a été plusieurs années de négociations pour arriver au mois de juin dernier à un accord. Ça a été très difficile, mais j'étais admirative devant la ministre de l'Agriculture portugaise parce qu'elle était avec nous jour et nuit. Et quand je dis jour et nuit, c'est vraiment jour et nuit. Et c'est elle qui a conduit les négociations pour l'Europe, mais aussi pour son pays. Donc nous attendons évidemment, en tant que députée européenne, encore plus ce moment très fort. Alors avec
ce qui va conduire à une difficulté, quand même,
c'est qu'au niveau français, eh bien, cette présidence arrive au moment même où nous avons des élections présidentielles et législatives. Alors, on va vous dire, oui, mais M. Macron sera présent. Et bien sûr, M. Macron va communiquer. Il a toujours beaucoup communiqué sur l'Europe. Mais là, il s'agit de dépasser l'exercice de communication et il s'agit d'obtenir des résultats concrets. Et des résultats concrets, on ne peut pas en avoir en 3 mois, puisque l'élection présidentielle a lieu au mois d'avril. Et sachant après, vous savez comment c'est, après une élection présidentielle, il faut reformer un nouveau gouvernement. Ça prend du temps, on change de ministre, donc les gens ne sont pas au fait des dossiers. Dans la foulée, il y a des élections législatives, donc avec des gens qui sont en campagne, et donc un regret vraiment très sincère de dire, bien sûr, nous avons des fonctionnaires très, très compétents, mais à un moment donné, quand les dossiers sont bloqués, il faut une parole politique forte. Et ça, c'est mon regret pour cette présidence française.
Je pense que Mme Keller ne va pas tout à fait être d'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, le 9 décembre, M. Macron a fait une conférence de presse où il a présenté ses priorités, a fait un grand oral. Qu'est-ce que vous pensez que c'est possible, malgré la campagne présidentielle ?
Alors, moi, je suis Emmanuel Macron depuis de longues années. Il est profondément européen. Il a défendu une vision européenne comme Alain Juppé. C'était les seuls pendant la présidentielle de 2017, alors que franchement, ça n'a pas du tout été médiatisé. Et depuis lors, il travaille d'arrache-pied. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a à la fois un ensemble de convictions, de priorités qu'il a exposées jeudi dernier, et aussi des relations, une connaissance de la mécanique européenne qui sera extrêmement efficace. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de travailler 6 mois sur une présidence européenne, le temps formel de cette présidence. Mais ça se prépare de longs mois avant, avec les présidences précédentes, avec les commissaires européens. Donc, sur des sujets comme le pacte vert, la transformation de notre économie, de nos modes de transport, de nos énergies, pour être, conformément aux engagements européens, émetteur de 55% de moins de gaz à effet de serre en 2030 et puis neutre en carbone en 2050, eh bien nous pourrons travailler sur ce paquet qui a déjà été présenté, un paquet, c'est-à-dire un ensemble de textes déjà présentés par la Commission, et c'est un objectif tout à fait prioritaire de le faire avancer. Sur la question de la sécurité qu'on évoquait tout à l'heure, il y a une proposition sur la table sur la zone Schengen, il y a une proposition sur le pacte migratoire, il l'a affiché comme première priorité, c'est une des toutes premières inquiétudes des Européens et l'Europe peut assurer doit assurer la sécurité. Sur la question du Covid, qui malheureusement est toujours là, avec des phases successives, ça a été une extraordinaire réussite pour l'Union européenne, cet achat des vaccins en commun. C'est clairement Angela Merkel et Emmanuel Macron qui étaient à la manœuvre, qui avaient négocié d'ailleurs un premier contrat qui était étendu aux 27 États membres. C'est dans cet esprit où on s'entraide, on utilise la puissance de l'Europe qu'il faut continuer à lutter contre cette maladie, tout en n'excluant pas, enfin, en amplifiant nos efforts d'aide aux pays tiers, parce que le virus ne pourra être contrôlé qu'à l'échelle de la planète. Bref, une présidence qui s'annonce dynamique, beaucoup d'axes stratégiques, beaucoup de fonctionnaires et de ministres bien préparés depuis de longs mois.
Avant de passer la parole au public, Madame Sander, il y a un sujet qui vous tient à cœur pendant cette présidence. Un sujet que je sais que vous êtes très impliqué sur les questions agricoles, la PAC a été adoptée, mais est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaitez suivre, qui vous intéresse particulièrement ?
Non, mais je dirais qu'il y a, c'est l'ensemble des sujets qui nous importent. Alors, ce qu'on veut, c'est une Europe qui soit beaucoup plus forte. Donc, se battre pour une Europe forte et pour une France forte. Alors, peut-être là, nous, l'autre sujet, qui sont d'ailleurs sur la table aujourd'hui, il y a toute la question de l'énergie. Et si on veut décarboner l'Europe, il faut faire en sorte eh bien, que l'énergie nucléaire, qui est une force française, soit reconnue au niveau européen et puisse être soutenue. Donc ça, c'est premier sujet sur l'énergie. Après, on a des sujets sociaux. On a bon, la question du salaire minimum, mais ça, finalement, c'est... Je ne veux pas dire que c'est une coquille vide, mais enfin, voilà, il n'y a pas grand-chose dans cette question du salaire minimum. On y reviendra peut-être plus tard avec vos questions. On a d'autres sujets vraiment portés par la France. On a aujourd'hui un texte au niveau européen qui nous inquiète beaucoup, notamment sur les sujets liés à la sécurité. Vous savez qu'on a un texte qui limite et qui encadre le temps de travail au niveau européen. Et ça, c'est problématique parce que c'est contraignant pour nos forces de sécurité, mais aussi pour nos forces de secours. Je pense en particulier aux pompiers. C'est un vrai sujet français-européen. On espère une dynamique là-dessus. Et puis, sur l'agriculture, eh bien, j'espère que la France portera un message fort de pragmatisme. Parce qu'aujourd'hui, au niveau européen, eh bien, on est en train de glisser sur une pente où... On en est au point où on nous explique ce qu'il faut manger, ce qui est bien, ce qui est mal, plus de viande, plus de sucre, plus de sel, plus d'alcool. Enfin, voilà. Et donc, j'espère que la France, qui est riche de ses produits agricoles, des différents territoires, eh bien, j'espère que la France aura une parole très, très forte là-dessus. Et puis, dernier point, toujours sur l'environnement, la barrière écologique, faire en sorte, ça, c'est vraiment une très forte priorité, que les produits qui rentrent eh bien, respectent nos normes de production ou alors soient fortement taxés. Et puis, je finis, en tant qu'Alsacienne et Strasbourgeoise, évidemment, on attend des avancées pour consolider le siège du Parlement européen.
C'était ma dernière question. Y a-t-il des événements? Qu'est-ce que vous attendez de cette présidence pour Strasbourg, Madame Keller?
Cette présidence s'inscrit d'ores et déjà... sous le chapeau, en quelque sorte, tout naturellement, sur la terre de Strasbourg, l'européenne. Le 2 décembre dernier, le président Emmanuel Macron a réuni les présidents de groupe à Strasbourg pour leur partager les priorités françaises. Il a organisé la présidence française pour que de très nombreux événements se déroulent dans notre ville pour donner corps en fait à ce qui est tout naturellement la mission de Strasbourg, qui est d'être le lieu de débat, le lieu de la démocratie, le lieu où tous les peuples et tous les territoires sont respectés. Cette présidence, je forme le vœu, et ça me semble vraiment très bien parti, qu'elle fasse rayonner la puissance, l'efficacité, la dynamique européenne dans le respect des États membres, mais en montrant sur tous les sujets qui viennent d'être évoqués combien on peut faire mieux en se coordonnant, en adoptant des règles communes dans certains domaines, en échangeant les bonnes pratiques dans l'autre, en affirmant une volonté, par exemple, sur les questions de sécurité, une volonté partagée, en utilisant ce formidable levier qu'est le fait d'être un ensemble respecté dans le monde de 450 millions d'habitants qui s'entendent sur l'essentiel. Et si quelques pays européens... bloqués par des gouvernements populistes, s'écartent de ce beau projet européen. J'espère que cette dynamique de la présidence française, son rayonnement, sera de nature à permettre de partager un projet commun tel qu'il se construit dans la conférence pour l'avenir de l'Europe, où chaque citoyen est invité à donner son avis, et que ce qui a fait la vigueur et la puissance du projet de départ soit en quelque sorte renouvelée en ce début du XXIe siècle pour que nous puissions s'orienter, regarder ensemble vers l'avenir tout en respectant nos diversités géographiques.
Alors, je vais laisser la parole à notre public. Pour une fois, nous sommes en public. Qui souhaiterait poser une question dans les étudiants de l'IMS de Nantes?
Bonjour. Moi, je m'intéressais sur la création de nouvelles lois ou aides de manière à favoriser la mobilité des jeunes entre les pays au sein de l'Union européenne. Et la possibilité de voyages type service civique ou au pair, etc.
Alors, mon groupe Renew s'est beaucoup engagé pour que 2022 soit l'année européenne de la jeunesse. Et donc, nous espérons que des initiatives nouvelles pourront à cette occasion être discutées et décidées. Il existe déjà un service civique européen, il existe déjà des possibilités de mobilité, mais l'idée c'est vraiment que chaque jeune européen puisse, à sa manière, comme il le souhaite, vivre cette année de découverte d'un autre État membre, découverte linguistique, découverte culturelle, à travers un stage, à travers une activité culturelle, à travers un service civique européen. Pour ce faire, il y a aussi l'idée d'élargir le titre de transport qui existe déjà, que ce titre peut-être soit plus largement accessible aux jeunes pour faciliter la mobilité. Il y a deux jours, j'étais sur le quai de la gare de Strasbourg pour accueillir le train de nuit Vienne-Paris qui s'est arrêté à Strasbourg. C'était tôt, mais il y aura d'autres trains de nuit. Et puis, il y a tout ce charme de la découverte, avec justement des émissions carbone limitées, mais de découverte de l'Europe. Je forme le vœu aussi que le développement des liaisons ferroviaires facilite pour les jeunes cette mobilité à la fois écolo et puis d'une certaine manière qui facilite, qui permet mieux la découverte des pays que l'on traverse.
Mme Sander, je crois qu'Erasmus a fortement augmenté dans le budget
oui,
européen.
Oui, exactement. Alors nous nous sommes beaucoup battus au Parlement européen pour augmenter des financements pour Erasmus+. Donc c'est un vieux programme bien connu, mais qui jusque-là reste limité à une certaine catégorie de jeunes. Et ce que nous avons voulu faire dans la prochaine étape d'Erasmus+, c'est de l'élargir et de faire en sorte que les jeunes, quel que soit l'endroit où ils vivent, quelles que soient les études qu'ils font, puissent bénéficier de ce programme. Quand on habite dans un quartier de ville où la vie n'est pas toujours facile, quand on habite en zone rurale, on doit aussi pouvoir avoir accès à cette expérience dans un autre pays, là où jusque-là, c'était plutôt réservé à des jeunes qui faisaient des études plus longues. Dire aussi qu'on a... Donc, on s'est beaucoup mobilisé pour pouvoir faire en sorte qu'Erasmus+ soit ouvert aux apprentis. Et puis... Erasmus+, s'ouvre de plus en plus aussi à des classes, parfois à des lycéens, il y a des projets de classe, donc il y a des choses vraiment très très intéressantes. Mais au-delà d'Erasmus+, il y a d'autres dispositifs qui existent déjà et qui sont moins connus. Il y a par exemple le corps des volontaires européens qu'on a créé dans la mandature précédente et qui permet à de jeunes européens de s'engager, par exemple, dans une action humanitaire dans un autre pays européen. Et je crois que c'est important aussi parce qu'il y a la notion de corps, au-delà de faire une expérience individuelle dans un autre pays européen, il y a ce sentiment d'appartenance à l'Europe qui peut être développé. Et enfin, nous avons aussi mis plus de financement pour les échanges dans les régions frontalières. Alors vous habitez à Nantes, vous n'avez pas l'Allemagne ou le Luxembourg à proximité. Mais pour des jeunes, par exemple les jeunes alsaciens, tout le monde ne peut pas, pour différentes raisons, avoir une expérience Erasmus+, dans un pays de l'autre côté de l'Europe. C'est parfois plus facile de rester à proximité, mais néanmoins de changer de pays européen. Et donc là aussi, ces échanges transfrontaliers doivent être encouragés. Donc je crois que c'est un beau projet pour la jeunesse, une jeunesse qui est d'ailleurs très impliquée au niveau européen, au Parlement européen. Nous accueillons chaque année des milliers de jeunes à travers Euroscola. On a accueilli là il y a quelques semaines plus de 5000 jeunes européens qui étaient là physiquement au Parlement européen. Donc on est très engagés. Je crois que c'est important que vous, les jeunes, puissiez vous faire entendre et puis puissiez vivre ce beau projet européen.
On va terminer par une dernière question dans le public.
Alors, bonjour à vous. Moi, j'aurais aimé savoir comment vous envisagez de procéder pour garantir un salaire minimum au niveau européen.
Ça fait partie des priorités, il m'a semblé lire. dans la présidence française.
Moi, je suis en commission emploi, donc c'est un sujet que je suis depuis de très nombreuses années. Et faire croire aujourd'hui aux gens qu'on va avoir un salaire minimum européen, c'est totalement illusoire, parce que ce n'est pas possible pour différentes raisons, parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui n'ont pas de salaire minimum européen, de salaire minimum tout court. Il y a 6 pays aujourd'hui qui n'ont pas de salaire minimum. Mais dans ces pays-là, on fonctionne différemment pour mettre en place le salaire minimum, et c'est des pays où finalement les droits sociaux des salariés sont plutôt intéressants. Et puis, vous avez un autre problème au niveau européen, c'est que vous avez une très grande diversité de salaires minimums. Le salaire minimum le plus bas doit se situer en Roumanie, doit être de l'ordre de 300 euros, et le plus élevé, de l'ordre de 1900 euros, c'est le Luxembourg. Donc déjà, vous voyez qu'il y a non seulement des très grosses différences, mais en plus, il y a des modes d'organisation de ce salaire qui sont différents. Alors, c'est vrai qu'au niveau européen, eh bien, nous devons pousser vers plus de convergence sociale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de raison que des salariés d'un pays soient désavantagés par rapport à l'autre. Et puis aussi, on voit bien aujourd'hui que la rémunération, le salaire, c'est devenu un élément de concurrence déloyale entre les différents pays, entre les entreprises. Donc, c'est problématique. Il faut plus de convergence sociale. On a aussi un souci, c'est que dans les traités aujourd'hui, dans les compétences qu'on a données à l'Europe, on ne lui a pas dit qu'elle pouvait mettre en place un salaire minimum. Donc aujourd'hui, on a un texte.
Comment notre président envisage-t-il de faire pour que ce sujet passe ?
On a un texte. On est en train de voter au niveau du Parlement. On va avoir des niveaux de salaire adéquats. Donc on est en train de définir des critères pour dire que dans les États, il faut des critères adéquats pour qu'il y ait un bon niveau de rémunération minimum. Voilà ce qui a été voté jusque-là. C'est très bien, c'est une avancée, mais on est très très loin du salaire minimum européen.
Alors merci beaucoup pour cette question sur le salaire minimum. C'est une question qui apparaît souvent dans les débats. Moi-même, je suis allée 4 samedis sur les marchés proposer aux habitants de voter sur ce qui était prioritaire. Et cette question de l'égalité salariale apparaît très haut dans les priorités. C'est vécu comme une injustice. Alors le sujet n'est pas simple. Anne Sander vient de nous exposer toutes les difficultés du dossier. Mais là où il y a une volonté, il y a un chemin. On a vécu pendant la crise une situation catastrophique dans une dizaine d'États membres, parce qu'à cause de l'arrêt de l'économie, lié au Covid, il y a des personnes qui se trouvaient dans une situation d'extrême pauvreté. On a mis d'ailleurs en place des fonds européens spéciaux pour épauler ces États membres, pour qu'ils puissent assurer un minimum vital aux habitants. Donc la préoccupation est en train de progresser en Europe. Bien sûr, il n'est pas question d'appliquer les mêmes salaires minimums dans tous les États membres. C'est trop tôt, c'est un objectif, mais c'est beaucoup trop tôt. L'intégration économique n'est pas encore assez forte pour qu'il y ait eu cette égalisation, comme on a pu la connaître dans le passé avec l'Espagne et le Portugal, par exemple, cette convergence. Mais par contre, il faut y tendre. Et c'est l'objet des travaux que vous menez en commission. Et il y a à ce sujet une forte volonté d'avancer pendant la présidence française, tout à la fois dans la compréhension et le respect des systèmes nationaux, mais aussi dans le socle minimum de droits sociaux, de rémunération, auquel tous les Européens doivent pouvoir aspirer. Et puis, il y a cette autre question du travail non organisé aujourd'hui, non salarié, où on est assez proche de l'exploitation. Donc là aussi, il y a une volonté de réguler cela, les travailleurs des plateformes et de leur statut. Là aussi, il y a une proposition sur la table pour qu'il n'y ait pas deux catégories en fait, de salariés, ce qu'on vit aujourd'hui et qui n'est pas admissible, parce que ce sont évidemment très souvent les jeunes qui se retrouvent dans des emplois déstructurés, qui travaillent pour les plateformes, et alors que d'autres bénéficient de statuts beaucoup plus complet. C'est un sujet lourd, mais important pour nos concitoyens. Donc, il sera en tête dans les priorités de la présidence française.
On aurait encore beaucoup de questions à vous poser. Malheureusement, l'émission arrive à sa fin. J'aimerais vous remercier, Madame Keller, Madame Sander, pour votre participation à cette émission, que je dirais exceptionnelle, délocalisée pour nous au lieu d'Europe. Merci également à Lucas Bringout de nous avoir épaulé, le régisseur de radio Judaïka, pour que cette émission puisse se faire ici. Pour ce qui nous concerne, on se retrouve bientôt, je dirais même l'année prochaine, pour une nouvelle émission européenne. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes. À bientôt.
Merci. Merci à vous et vive l'Europe.
Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Saint-Germain.